journal sur France Inter, c'est avec Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous. Le retour des cafés entre les cours sur les campus et des amphis bondés, même s'il faudra être masqué. Le soulagement des étudiants alors qu'une rentrée presque normale se profile malgré le Covid. Ils espèrent maintenant que les règles ne changeront pas encore en cours de route. Près d'une centaine de morts à Kaboul, selon les autorités sanitaires de la capitale afghane. Lourd bilan du double attentat suicide devant l'aéroport hier soir, revendiqué par le groupe État islamique. Dans ce journal encore, Emmanuel Macron en mode international après l'Irlande hier. Le chef de l'État décolle pour l'Irak où il va passer 2 jours. Quand en France, tous les partis se réunissent avec la présidentielle en ligne de mire. Nous irons au Brésil où des milliers d'indigènes manifestent pour défendre leurs terres ancestrales. Et puis elle a fait centrale et égérie de L'Oréal chez qui elle travaille. Et elle est en ce moment aux Jeux paralympiques de Tokyo en tennis fauteuil. Emmanuel Merck entre en lice ce matin avec tous ses collègues comme supporters.
Dans 20 minutes, le premier invité de la matinale, l'acteur Cadmerad, il est à l'affiche de Triomphe. Il incarne un comédien qui va monter avec des détenus en attendant Godot de Beckett, histoire vraie tirée d'une expérience en Suède. On en reparle tout à l'heure dans 20 minutes.
France Inter.
Ils vont enfin faire leur retour dans les amphis.
Les étudiants commencent à faire leur rentrée dès la semaine prochaine, sans jauge, sans distance physique, et tout de même masqués, mais sans passe sanitaire. Grâce à un bon taux de vaccination, 80% auront un schéma vaccinal complet d'ici la rentrée, selon la ministre de l'Enseignement supérieur. Et après 1 an et demi de cours en visio et d'examen à distance, les facs et les écoles vont donc reprendre vie. Sonia Princé.
C'est un soulagement pour les étudiants. Lucie ose à peine croire qu'elle va peut-être enfin connaître une année normale. Elle rentre en 3e année de licence à la Sorbonne à Paris après 2 années chaotiques.
Depuis mars de ma L1, j'ai eu extrêmement peu de cours en présentiel. Les professeurs donnaient des cours sur Zoom ou alors laissaient des notes vocales sur une plateforme de l'université. Et donc, je pense qu'on attend tous d'avoir des vrais cours en amphithéâtre et en classe de travaux dirigés pour pouvoir apprendre dans des meilleures conditions. Et là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de partiel. Donc, on redoute aussi cette 3e année pour ça.
Des partiels, des cours en amphi, ce retour en présentiel est possible notamment grâce à la vaccination. Lucie est vaccinée comme une majorité d'étudiants. 80% des 18-29 ans ont reçu au moins une première dose et des journées de vaccination seront organisées sur les campus. Le pass sanitaire ne sera pas exigé dans les établissements de l'enseignement supérieur, sauf pour les événements festifs, les journées d'intégration ou les séminaires avec plus de 50 personnes. Pas de pass non plus dans les restaurants universitaires. Les étudiants comme les personnels espèrent seulement que les règles ne changeront pas en cours d'année.
Sonia Princé. L'actualité ce matin à l'étranger, c'est le groupe État islamique qui sème la mort en Afghanistan. Alors que des milliers d'Afghans s'entassent depuis des jours devant l'aéroport de Kaboul, un double attentat suicide a tué des dizaines de personnes hier soir. Difficile d'établir un bilan pour le moment. Il y aurait au moins 90 morts selon les autorités sanitaires de la capitale afghane. 13 soldats américains font partie des victimes d'après le Pentagone. Les talibans, de leur côté, parlent de 28 morts dans leur rang. Le journaliste afghan Bazit Naqbandi était sur place hier soir. Il raconte le choc pour les civils.
Les gens sont tristes et très angoissés par les explosions qui ont eu lieu à côté de l'aéroport. Kaboul est très calme depuis, personne dans les rues, pas de voitures, pas de passants. Les talibans ont établi des checkpoints et ne laissent pas les Afghans approcher de l'aéroport. Les Américains, les Français, tous ceux qui n'ont pas la nationalité afghane peuvent passer. Les talibans ne veulent pas que les Afghans fuient le pays.
Vers 19h, les talibans et les soldats américains ont fermé les portes de l'aéroport de Kaboul.
Et quelques heures seulement après l'attentat, les terroristes du groupe État islamique les ont revendiqués dans cette région Daesh. Et les talibans sont depuis longtemps en guerre ouverte. Le groupe terroriste est d'ailleurs composé d'anciens talibans qui ont rompu avec leur hiérarchie. Mais cet attentat ne visait pas que les talibans, selon Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
Ça n'est pas très étonnant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une occasion inespérée pour les djihadistes de l'État islamique d'attaquer 3 cibles à la fois, les Occidentaux, les talibans et les Afghans qui fuient pour rejoindre les Occidentaux. Ce sont tous les 3 des ennemis et donc on savait que Daesh était présent et il profite de cette occasion où une foule est assemblée pour viser ces trois cibles et en plus de faire médiatiser cette opération. Parce que toutes les caméras du monde sont braquées sur eux. Et donc, c'est un coup inespéré pour eux.
Dominique Trinquant, interrogé par Benjamin Fontaine, Joe Biden a pris la parole hier soir. Ému, le président américain a promis de pourchasser et de faire payer les responsables de l'attaque. Et malgré ces attentats, les évacuations se poursuivent et s'accélèrent. Le pont aérien français est censé prendre fin ce soir. Hier, Emmanuel Macron a indiqué que la France allait encore tenter d'évacuer plusieurs centaines d'Afghans et que l'ambassadeur de France à Kaboul allait être rapatrié et travailler désormais depuis Paris. Le chef de l'État qui s'exprimait depuis l'Irlande où il a passé la journée d'hier. Aujourd'hui, il accueille à Paris le président de Madagascar avant de décoller en fin de journée vers l'Irak. Une actualité très internationale pour Emmanuel Macron alors que la plupart des partis politiques font leur rentrée ce week-end en France. Il veut se montrer au-dessus de la mêlée, Maxence Lambrec.
Il vient là où personne ne peut le rattraper. Aucun de ses adversaires ne peut se rendre. Bagdad, Mossoul, Erbil, déplacement sous haute sécurité pour soutenir, valoriser les efforts du gouvernement irakien dans la lutte antiterroriste et contribuer à la baisse des tensions régionales. C'est en tout cas l'objectif demain du sommet voulu par Paris qui réunira le président égyptien, le roi de Jordanie et au moins un représentant turc, iranien et saoudien. Une première étape se réjouit l'Elysée. Cette réunion est en soi une avancée. Ce n'est que de l'affichage. Tempère ici un observateur. Emmanuel Macron veut garder ce costume de diplomate, même si son investissement au Liban l'été dernier n'a pas abouti. Il se montrera dimanche aux côtés des chrétiens d'Orient à Mossoul, des combattants kurdes à Erbil, sur le chantier de reconstruction de la mosquée Al-Nouri, détruite par Daesh. Autant d'images très fortes qui viendront percuter celles bien plus convenues des rentrées politiques à Valence, Brive ou La Baule. Et dans sa délégation, pas le moindre homme d'affaires, mais la militante féministe Caroline Fourest et la prix Nobel de la paix, icône des Yazidis, Nadia Mourad. Bagdad, Maxence Lambrec, France Inter.
La politique à droite, le moment n'est pas venu, dit Laurent Wauquiez qui renonce à participer à la primaire de la droite. Il dit ne pas vouloir rajouter de la division à la division. En revanche, Michel Barnier, lui, se lance. L'ancien négociateur européen pour le Brexit rejoint ainsi Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Éric Ciotti, qui s'est lui aussi déclaré hier. Xavier Bertrand, lui, refuse toujours de participer à cette primaire. Et qui sont les prétendants pour la présidentielle à droite? C'est à lire sur franceinter.fr.
On part au Brésil. Ils défendent les terres qui sont les leurs depuis toujours.
Face à leur propre gouvernement. Depuis dimanche, des milliers d'indigènes sont installés devant la Cour suprême qui examine en ce moment le cadre temporel. C'est un cadre qui ne reconnaît comme ancestral pour les indigènes que les terres délimitées en 1988, niant ainsi une partie de l'histoire de certaines tribus indigènes chassées de leurs terres durant la dictature militaire. Une réforme voulue par le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Résultat, c'est la plus grande manifestation indigène de l'histoire du pays. Reportage à Brasilia, Sarah Cozzolino.
Depuis dimanche, des milliers d'indigènes en tenue traditionnelle campent près de la place des Trois Pouvoirs à Brasilia. En face de la Cour suprême, plus de 6000 membres de 170 tribus autochtones suivent en direct les débats depuis un écran géant. Dina Mamtoucha est membre de l'APIB, l'articulation des peuples indigènes du Brésil.
Ce cadre temporel va non seulement mettre en danger juridiquement les peuples indigènes qui ont des territoires démarqués, mais il va étrangler une fois pour toute la politique indigéniste. Et la conséquence de tout ça, ce sera l'augmentation considérable des conflits socio-environnementaux, l'augmentation de la criminalisation des leaders indigènes, parce que nous allons lutter.
En ne prenant en compte que les terres indigènes démarquées en 1988, le cadre temporel nie les droits des tribus qui ont été expulsées de leurs terres au cours de l'histoire du pays, notamment pendant la dictature militaire. Les débats à Brasilia sont scrutés de près par le lobby de l'agronégoce qui espère pouvoir récupérer des terres cultivables. Le président brésilien, lui, s'est clairement prononcé en faveur du cadre temporel. Ce jeudi, la décision de la Cour a de nouveau été repoussée. Les débats reprendront le 1er septembre. Mais selon les experts, le jugement pourrait mettre plusieurs semaines, voire mois, avant de tomber. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour France Inter.
à Tokyo, une nouvelle médaille pour les Français aux Jeux Paralympiques. On n'en connaît pas encore la couleur, mais ce sera de l'or ou de l'argent, puisque la judokate Sandrine Martinet s'est hissée en finale des moins de 48 kilos. Ce sera à suivre à 9h. En tennis de table, Léa Fernet atteint les demi-finales. Et les Français se sont imposés de justesse en rugby, fauteuil 52-50 face au Danemark. Nos athlètes français, qui pour certains sont aussi des égéries. C'est le cas d'Emmanuelle Merck. Elle joue ce matin son premier match du tournoi de tennis fauteuil en double avec Charlotte Fairbank, égérie de L'Oréal, où elle travaille depuis 5 ans et où ses collègues sont à fond derrière elle. Béatrice Duguay.
Difficile de la manquer en ce moment dans les locaux du groupe, reconnaît Anne-Laure Thomas, la directrice diversité et inclusion.
Sur tous les écrans plats, partout en fait, il y a la photo d'Emmanuel. On réitère notre soutien à Emmanuel pour l'ensemble des collaborateurs parce que c'est très fédérateur et on est tous derrière elle.
Une grande photo surplombe aussi le siège de L'Oréal à Clichy. Emmanuel Meur qui partage l'affiche avec Maxime Vallet, un escrimeur en fauteuil. La jeune femme est devenue paraplégique après un accident de snowboard à 18 ans. À 31 ans, elle travaille aujourd'hui au marketing, embauchée juste après les Jeux de Rio, raconte Vincent Boinet, directeur général de la branche liée au voyage.
Elle se posait des questions entre le tennis en fauteuil et une aventure professionnelle parce qu'elle est brillante, elle a fait centrale. Donc on lui a dit, écoute, viens chez nous, tentons cette aventure et ça a été absolument magnifique. Et elle nous a aidé à avoir un autre regard sur le handicap.
Depuis qu'elle est partie pour Tokyo, Emmanuel partage son quotidien en photo sur la messagerie créée pour l'occasion parce qu'elle est en fait un trait d'union dans l'entreprise, au sens propre du terme.
On a créé un groupe, un fan club pour accompagner Emmanuel à Tokyo, c'était vraiment important pour nous. Collaborateur France, collaborateur Japon, donc on mélange toutes les langues et on tient au courant des entraînements. On est donc tous avec elle et elle le sait, c'est important pour elle, c'est important pour nous. On suit toutes ses aventures.
Si les chances de médaille d'Emmanuel Merck sont minimes en simple, elles sont réelles en double. Ses collègues y croient fort, en tout cas.
Béatrice Duguay, une autre médaille. À l'instant, Alexandre Léauté, médaillé d'argent aux 1000 mètres en contre-la-montre. C'est du paracyclisme. Enfin, en football, le Stade Rennais est qualifié pour la phase de poule de la Ligue Europa Conférence. Nouvelle compétition européenne cette saison. Victoire des Bretons 3-1 sur Rosenborg hier. Le tirage au sort est à 13h30 en Ligue Europa tout court. Cette fois, c'est aujourd'hui également que Monaco, Lyon et Marseille connaîtront leurs adversaires.
Merci Kevin Dufraîche.